aujourd'hui, on va voir une histoire qui s'est passée avec le roi David. David qui était vraiment un modèle dans la louange. Et là, il y a un moment très important dans sa vie qui se passe. Nous lisons donc dans 2 Samuel 6, à partir du verset 12. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quelle histoire! Quelle histoire! David, le grand roi, n'avait qu'un but, n'avait qu'un désir. C'était d'avoir l'arche de la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel signifiait exactement que Dieu était présent, que Dieu habitait. Et le signe de cela, c'était la bénédiction qu'il y avait sur la maison d'Obed-Edom. Parce qu'il faut dire que cette arche avait été emmenée par les ennemis, ils l'avaient gardée chez eux, et David s'est battu pour ramener cette arche, pour la saisir. Mais il était tellement enthousiaste qu'il s'est dépêché de la ramener et qu'il l'a fait avec ces moyens-là, avec ses moyens personnels, et il y a eu un problème. Un des hommes qui a voulu retenir l'arche qui allait tomber du char a été foudroyé par Dieu. Donc David a été scandalisé, choqué, s'est dit « mais j'ai dû faire une erreur ». Et il a réalisé qu'il s'était pris beaucoup trop vite, il avait fait avec sa manière, sans respecter ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé que l'arche soit portée par des hommes, bras d'hommes, et puis qu'il y ait des sacrifices qui soient offerts durant le transport. Là, cette fois, l'arche est restée au repos chez Obed-Edom pendant plusieurs mois. La bénédiction de Dieu était sur ce lieu, et finalement, David, qui se sent maintenant prêt, qui s'est préparé, vient avec cette arche. Il la prépare, il l'avance avec les sacrificateurs qui offrent des sacrifices. David est plein de joie. David est content. Il se réjouit, il amène cette arche à Jérusalem. Enfin, ce qu'il avait prévu depuis longtemps arrive. Alors, il y a tellement de joie pour lui. Et il se met en position de sacrificateur. Il s'habille comme le sacrificateur et il se met parmi la foule, parmi le peuple, parmi ceux qui transportent cette arche. Parce qu'il ne veut pas rester juste comme un roi spectateur qui observe de loin, assis sur son trône, ce qui se passe. David est un homme qui est impliqué pleinement dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Il ne se cache pas derrière sa position. Et je crois que c'est un bon exemple pour nous tous. Quelle que soit notre position dans l'Église, notre rôle, nous sommes invités à nous joindre à la foule de ceux qui se réjouissent dans la présence de Dieu. Alors, il y a des sacrifices, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un grand cortège joyeux, un grand festival de louanges. Et David montre l'exemple. Et comme résultat de cette louange, de cet exemple, il obtient une chose qui est assez difficile. Il voit sa femme, et sa femme plutôt le voit, l'observe en train de danser et se met à le mépriser. Michal, qui était la fille de Saül, qui lui avait été donnée en mariage suite au combat qu'il avait remporté contre Goliath, n'était pas du tout acquise à ce cœur d'adorateur qu'avait David. Elle était plus dans un rôle de position où elle aimait peut-être sa position de reine, mais elle n'était pas du tout contente de voir David se joindre au peuple. Elle l'a critiqué, elle l'a méprisé. Elle n'a pas du tout aimé cette danse, elle n'a pas aimé cette musique, elle n'a pas aimé cette louange. Comme aujourd'hui d'ailleurs, certaines personnes, même dans nos églises, dans nos communautés, n'aiment pas voir certains gestes, certains mouvements, un certain enthousiasme, elles se mettent à critiquer. Mais les conséquences ont été pour Michal. Le texte, un autre texte qui parle de cette histoire nous dit que Michal fut stérile et n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Donc la critique, le mépris de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres amène la stérilité. Et j'aimerais vous encourager à ne pas avoir un esprit critique dans la louange. Quand on est dans la louange, dans l'adoration, nous avons 2 choix. Soit nous décidons de rentrer dans l'adoration, dans ce que Dieu est en train de faire, dans cette louange, dans ces chants, soit nous restons à distance. Et en restant à distance, nous nous mettons à observer, à regarder et très rapidement à critiquer. Tiens, pourquoi celui-ci danse comme ça? Pourquoi celui-là chante comme ça? Pourquoi tel habit? Pourquoi tel mouvement? Pourquoi tel geste? Et on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas dans la louange, on est juste dans le jugement, la critique. Et cela ne porte aucun bon fruit, ni pour nous, ni pour l'Église. Alors soyons comme David, des exemples de l'adoration, qui n'avons pas peur de montrer notre cœur, notre joie, nos émotions même dans la présence de Dieu. Et je crois que Dieu est en train de nous faire redécouvrir tout cela aujourd'hui. Le peuple de Dieu est en train de redécouvrir cette joie qu'il y a dans la danse, cette joie qu'il y a dans la musique joyeuse, célébrante, qui proclame Dieu. J'ai eu le privilège de participer plusieurs fois à des marches pour Jésus. Quelle joie d'être dans la rue, dans nos villes, dans nos cités, avec des milliers de personnes, et de pouvoir lever les mains, de pouvoir chanter, de pouvoir danser, alors que d'autres le font pour d'autres occasions, comme un carnaval ou une fête médiévale ou autre. Nous le faisons pour notre Dieu, pour celui qui nous a sauvés. Alors, il n'y a aucun complexe à avoir que de danser, de chanter. Et surtout que Dieu a redonné beaucoup de musique, beaucoup de créativité aux musiciens aujourd'hui. Et comme c'était le cas du temps de David, parce que David, il avait préparé ses musiciens. Il leur avait donné des ordres, il les avait fait fabriquer les instruments, il les avait encouragés à répéter, à travailler. Donc, c'était des musiciens enthousiastes, des musiciens dynamiques qui amenaient beaucoup de joie. Et les danseurs étaient présents. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a la place pour la danse dans l'Église et que Dieu est en train de redonner la danse à l'image de David. David était roi, il n'a pas eu honte de danser. Alors vous aussi, leader, responsable, pasteur, musicien, chantre, jeune, plus âgé, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, dit la Bible. On peut se réjouir dans la présence de Dieu. Et Dieu veut faire de nos églises un grand cortège de louanges, un endroit où on peut se réjouir. Pourquoi ? Parce que l'arche est au milieu de nous. Parce que l'arche de l'Alliance est là, parce que la présence de Dieu est là. C'est ça qui doit donner la motivation à notre louange, à nos chants, à ce que nous vivons. Rien d'autre. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas notre liturgie, notre système. C'est juste l'accueil de la présence de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui nous a délivrés de nos ennemis, qui nous permet de le louer sans crainte, sans honte. Et de tout cela a découlé quoi ? 10 offrandes merveilleuses. Tout le peuple était tellement content qu'il y a eu une grande offrande. Et David a pu bénir le peuple. Et sa bénédiction était remplie de joie et d'encouragement. Alors je crois qu'aujourd'hui, Dieu, qui est présent au milieu de son peuple, mérite le meilleur de nos vies. Il mérite qu'on se réjouisse pour lui. Bien sûr que chaque occasion n'est pas toujours propice pour une célébration joyeuse, mais il doit y avoir de la joie dans la présence de Dieu. Parce que Dieu répand sa joie parmi son peuple. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Si nous voulons être une église forte, une église solide, il faut qu'il y ait de la joie dans notre louange. Là, ça fait partie du caractère de Dieu. Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu qui danse. J'ai dit même dans une parole d'un petit prophète que Dieu tourne et saute de joie à la pensée de son peuple, à la pensée de ses enfants. Je crois que d'avoir cette image-là, cette idée, cette pensée que Dieu lui aussi danse, ne devrait pas nous empêcher de danser nous-mêmes. Nous sommes appelés, nous avons reçu un corps, des membres, une capacité, une force pour aussi exprimer cela. Peuple de Dieu, sois encouragé à faire partie de ce cortège de louanges et réjouis-toi dans la perspective de cette grande marche de louanges, de célébration, de joie que nous allons vivre tous ensemble dans sa présence, dans l'éternité. Mais nous y goûtons déjà sur terre. Et je me réjouis chaque fois que je vois l'Église participer à cette fête de louanges et accueillir le roi des rois. Soyez une Église qui l'adore, vous tous ses adorateurs.